carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Bonjour, bienvenue dans notre émission Carrefour des Arts, une émission consacrée aujourd'hui aux épées d'académiciens, des épées dont nous parlerons avec un des spécialistes du genre, l'orfèvre Gucci. Gucci, bonjour.
Bonjour.
Nous allons rappeler en quelques mots votre parcours, bien qu'il soit connu de tous, tant votre renommée est grande de par le monde. Vous êtes né en Géorgie en 1941, ce qui a fait dire, je crois...
En Géorgie, ex-Union soviétique, parce que les gens font une confusion avec les États-Unis.
Les États-Unis, vous faites bien de le rappeler. Et donc, le fait que vous soyez né en Géorgie, durant la Seconde Guerre mondiale, a fait dire un jour à Félicien Marceau, je crois, que vous aviez vu le jour tout près de l'endroit où est né le mythe de la Toison d'Or. Vous avez ensuite étudié la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Tbilissi. Vous avez eu parmi vos professeurs le peintre Tchoukaïev, qu'on considère comme l'un des meilleurs peintres de la première école de Paris, celle des années 1920-1930. Vous avez décidé de vous établir à Moscou en 1964, où vous êtes alors devenu le plus jeune membre de l'Union des artistes du RSS. En 1969, vous avez épousé Catherine Barsac, qui est la fille d'André Barsac, le célèbre metteur en scène et directeur du théâtre de l'Atelier à Paris. Signalons que votre épouse est, je crois, la nièce de Léon Bakst, qui était un des décorateurs préférés de Serge de Diaghilev et des ballets russes. La petite nièce. Ce mariage vous a à l'époque valu de nombreuses difficultés avec les autorités soviétiques qui vous ont purement et simplement mis au ban. Il a fallu 5 longues années de démarches diplomatiques, puis l'intervention personnelle du président de la République de l'époque, Georges Pompidou, pour que vous quittiez finalement l'Union soviétique. C'est ainsi que vous êtes arrivé à Paris en 1974. Vous avez coutume, je crois, de dire vous-même que vous êtes né à Paris à l'âge de 33 ans, un âge symbolique s'il en est, ce jour même de votre arrivée à Paris.
Une belle métaphore.
Alors, il faut sans doute encore préciser un élément qui est capital pour l'orfèvre que vous êtes, cher Gucci, c'est que votre installation à Paris, dans cet atelier de Montmartre que vous avez gardé jusqu'à aujourd'hui, vous a permis de travailler, j'ai envie de dire enfin, les métaux précieux qui étaient totalement prohibés en URSS. Et vous avez au fil des années, depuis, développé un art très personnel à l'inspiration protéiforme. J'y vois, mais vous me direz si je me trompe, une influence hittite, celle du monde carolingien ou encore l'influence du Moyen-Âge. Vous avez forgé de très nombreuses pièces d'orfèvrerie, qu'elles soient profanes ou sacrées. Nous y reviendrons d'ailleurs, si vous le voulez bien, en fin d'émission, puisque vous venez de terminer la chasse du Padre Pio en Italie. Alors abordons, si vous le voulez bien, le thème qui nous vaut le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, ces épées d'académiciens. Vous en avez forgé 13. Je crois que la première de ces épées fut d'ailleurs forgée en 1976, 2 ans seulement après votre arrivée à Paris, pour l'académicien que je citais tout à l'heure, Félicien Marceau.
C'est exact, parce que ma femme, la fille d'André Barsac, metteur en scène, elle connaissait bien Félicien Marceau, parce que mon beau-père a monté plusieurs pièces de théâtre Félicien Marceau, et dès qu'il était élu dans l'Académie française, comme ça, sans aucune arrière-pensée vraiment, ma femme a félicité et ajouté que s'il souhaitait, je pouvais présenter le projet pour l'épée. Félicien a répondu pourquoi pas, il faut qu'il me présente le projet. Donc ça a commencé comme ça. Donc c'était une grande responsabilité pour moi parce que c'est la première fois que j'ai abordé ce sujet. Je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à étudier, c'est-à-dire quelles sont les traditions pour les académiciens, avoir une épée, quoi ça sert, ou qu'est-ce qu'il faut exprimer dans cette épée, etc. Évidemment, il fallait personnaliser cette épée. Comme de chaque épée d'académicien.
Il fallait que les éléments qui forment cette épée rappellent...
L'œuvre.
L'œuvre, voilà.
De Félicien Marceau. Évidemment, je ne connaissais pas l'œuvre de Félicien Marceau. C'est tout à fait naturel parce que je venais d'arriver de l'autre côté des rideaux de fer. Et grâce à ma femme, qui m'a donné quelques indications, parce qu'elle connaissait bien l'œuvre de Félicien Marceau. Ensuite, on a eu l'entretien avec lui. Il m'a donné l'impression d'un homme très aimable et j'ai été complètement séduit par cette personne. Et un mois d'après, j'ai présenté le projet en forme de dessin. Il a gardé, il a eu un moment de silence. Et ensuite, il m'a souri, il m'a dit ça va très bien, ça me convient, donc vous pouvez continuer. Donc j'ai été soulagé. Et plus tard, 2 mois plus tard, l'épée était prête pour la cérémonie de remise de l'épée.
On peut peut-être décrire justement cette épée.
Voilà. Et dans cette épée, enfin, d'abord, comme matière, j'ai utilisé l'or, l'argent, plusieurs pierres dures. Et bien entendu l'acier pour l'âme de cette épée.
On parlera de la lame après, parce que justement, voilà. Il y a quelque chose de spécial.
Tout à fait. Donc, il fallait trouver la solution pour mettre harmonieusement et dans une cohérence totale plusieurs sujets. Et, par exemple, il y a 2 pièces majeures, pièces de théâtre de Félicien Marceau, « Solof », et de bonne soupe. Voilà, comment vous voulez mettre ça dans l'épée. Mais j'ai trouvé une solution, enfin, présenter une soupière, figurez-vous, en argent et en œuf, mais en grenat. Et je le savais qu'il a consacré beaucoup en l'œuvre de Balzac. Et donc le Balzac, c'est très important pour Félicien Marceau. Et donc, j'ai trouvé les dessins du 19e siècle, une caricature de Doré sur Balzac qui est montée sur le cheval. Et donc, ça a été, si vous voulez, un peu des thèmes autour desquels j'ai construit cette petite sculpture de Balzac et j'ai posé sur cette l'œuf dans le pommeau de l'épée. Par ça, aussi, il y a des têtes d'un personnage de roman qui s'appelle Crisi. Également un roman qui s'appelait Boca della Verità, je dis la vérité, c'est-à-dire dans une église paléo-chrétienne à Rome, il y a cette masque antique avec bouche ouverte et suivant les traditions, les gens y mettent les mains dans la bouche et si la personne qui a mis les mains dans cette bouche ils disent pas la vérité, après la légende, cette masque en pierre pouvait mordre. Voilà. Et également, il y a d'autres sujets, comme par exemple...
Le sablier, je crois.
Le sablier, c'est autour de temps, voilà, comme symbole de temps et de vanité. Voilà. Et également, les rideaux de théâtre, parce que ça, c'était important pour Félicien Marceau de cette œuvre pour le théâtre. Et également, plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs, parce que sa femme, Bianca, qui était une femme charmante, elle était italienne, elle a eu toute cette splendeur et d'amour pour les pierres dures, parce que Dieu seul sait, l'Italie est tellement riche par toutes ces pierres, et c'était un peu de dommage pour sa femme, qui a joué aussi assez rôle important dans la vie de Félicien Marceau.
Et je crois que donc vous avez choisi pour ça la malachite.
La malachite, lapis-lazuli, également le perle, onyx, et je crois que c'est tout.
Alors, il faut préciser que la remise de l'épée, c'est un moment qui est privé, entre guillemets. Elle n'a pas lieu, cette remise, à l'Institut de France, mais généralement, lors d'une petite cérémonie amicale.
Ou petite et plus important, oui. Ça dépend.
Là, c'était en fait chez l'éditeur de Félicien
Marceau.
Enfin,
si, c'est le Gallimard, voilà. Qui a édité Félicien Marceau.
Et c'est Claude Mauriac qui avait lu le discours de remise de l'épée.
Tout à fait. Et donc, ça se passait dans le salon de Gallimard. Dans cette remise de l'épée. Et ensuite, quelques mois plus tard, c'était intronisation sous coupole. Et bien entendu, j'ai eu l'honneur d'être invité. Et donc, j'ai assisté de première fois dans ma vie, parce que ça m'intéressait beaucoup. Je connaissais l'Institut de l'extérieur, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y entrer. Et voilà, c'était une occasion. Et depuis, chaque fois, j'ai été invité par le maire d'institut, divers instituts, pour qui j'ai réalisé des épées.
Alors, on évoquait la lame de cette épée. Je crois que pour celle de Félicien Marceau, voilà. Il y a une anecdote que vous pouvez nous rappeler.
Oui, parce que fabrication de lame, ça me posait le problème, parce que de lame doit être forgée. Forgée avec bon, même si ça ne sert pas. avec bonne qualité d'acier, il faut que ça ne s'oxyde pas. Voilà. Évidemment, je n'ai pas eu de matériel nécessaire parce que c'était tout à fait début de ma carrière. J'ai eu l'idée de chercher parce que je connaissais bien le marché aux puces où on trouvait beaucoup de choses. Et entre autres, j'ai trouvé un marchand d'armes qui vendait en pièces détachées.
Des lames anciennes.
Voilà, des lames anciennes. Et l'arme que j'ai choisie, c'est l'arme espagnole de Tolède. C'est marqué et très élégant. Voilà, juste ce que je pouvais faire, c'est que j'ai raccourci un petit peu parce qu'il était très long. Voilà. Et depuis, j'ai pris comme tradition de chaque fois, j'ai cherché des lames anciennes. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il y a toute une mythe et des mystères autour de cette lame, parce que vous savez, vous trouvez l'âme du XVIIe siècle ou XVIIIe, on ne sait jamais si ça servait vraiment, s'il y a des morts. Oui. Donc c'est le mystère.
Peut-être violent, oui.
Voilà. Bon, en tout cas, cette lame est vécue. Voilà. Et c'est chargé d'histoires inconnues.
On va marquer une pause, si vous voulez, puis nous reparlerons du succès qu'a eu cette épée et de celles qui ont suivi, si vous voulez bien.
Canal Académie vous invite à découvrir René Lalique et ses bijoux d'exception 1890-1912. C'est le titre d'une exposition que l'on pouvait admirer au Musée du Luxembourg à Paris en été 2007 et ensuite à Berlin au Bruegel Museum. Canal Académie vous propose deux émissions, l'une en français, l'autre en allemand. Entrons dans le monde féerique des créations des bijoux d'exception du grand maître joaillier et du maître verrier de l'Art Nouveau, René Lalique. Maintenant sur Canal Académie.
Nous retrouvons Gucci, orfèvre, qui est venu nous parler aujourd'hui des épées qu'il a forgées pour différents académiciens. Nous parlions de la première de ces épées, celle qu'il a réalisée en 1976 pour Félicien Marceau. Une épée qui a eu ensuite des répercussions tout à fait intéressantes et positives, puisque Gucci, vous avez ensuite été sollicité, je crois, historiquement et chronologiquement par Robert Turcan, qui avait été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1991.
Oui, c'est un historien, de grand spécialiste.
Spécialiste des antiquités romaines.
Romaines et notamment de passé, de présence de romaines dans le Gaule, c'est des gallo-romaines, voilà, spécialiste d'époque gallo-romaine. C'est un lyonnais, donc il était longtemps professeur à l'Université de Lyon. J'ai exécuté une épée pour lui avec tous les symboles qu'il m'a indiqués.
C'est intéressant parce que vous l'avez rencontré, oui. Et de ces rencontres sont nées pour vous les images que vous pouviez reproduire ou forger sur le pommeau de l'épée.
Oui, enfin, il y a plusieurs sujets. Moi, j'essaye de mettre maximum, mais quand même, il ne faut pas trop charger non plus de l'épée. Mais ce qui est intéressant, il m'a donné monnaie.
Une monnaie ancienne.
Qui était frappée à Lyon, de l'époque de Gaulle, c'est-à-dire probablement c'est 3e siècle. Voilà. Donc j'ai incrusté cette monnaie en bronze dans cette épée. Et à part ça, il y a beaucoup de sujets, de romaines, comme des feuilles d'olivier, feuilles de chêne.
Bien sûr, tout ce qui évoque l'immortalité, l'éternité, enfin, voilà. Des thèmes chers à l'Académie. Alors, cette même année 1991, vous avez réalisé l'épée de Madame Hélène Carrère d'Encausse à l'occasion de son élection à l'Académie française. Et vous avez, je crois, une anecdote au sujet de cette commande, puisque vous en avez eu connaissance de manière très singulière.
Donc, par avant, j'ai raconté une fois dans le privé, à l'occasion d'un mariage, Madame Carrère d'Encausse. Juste, on a discuté quelques minutes et je pense que 2 ans après ou 3, un ami qui m'a téléphoné pour dire qu'il a écouté radio où ils ont annoncé l'élection de l'Académie française, Madame Hélène Carrère d'Encausse, et elle a déclaré qu'elle souhaitait me confier de l'épée. sans parler.
Et oui, vous n'étiez pas au courant.
Je n'étais pas au courant, j'étais tellement surpris. Et, enfin, je me suis dit, peut-être mon ami, il n'a pas bien compris, donc je n'ai pas donné tellement d'importance. Et effectivement, une semaine après, j'ai reçu une lettre où
elle confirmait ça.
Elle m'a demandé. Et donc, c'était confirmé, bien entendu. On s'est rencontrés en plusieurs reprises. Et donc, voilà, comme toujours, on a discuté. C'est une femme charmante. Donc, j'ai aussi été complètement sous le charme de cette femme. Ce qui m'a frappé surtout, et ensuite j'ai assisté plusieurs fois dans une conférence qu'elle a donnée, cette clarté qu'elle a dans son exposé.
Alors, c'est une épée qui représente aussi un défi, parce que c'était la première fois qu'on forgeait une épée pour une académicienne.
Oui, oui,
Madame
Caradancos
n'est pas la première femme à être reçue sous la coupole, mais Marguerite Yourcenar n'avait pas voulu d'épée.
Elle ne souhaitait pas, Marguerite Yourcenar.
Donc là, c'était un défi aussi pour vous.
Oui,
pour
et
vous
donc
deux,
c'est la première femme avec la première épée.
Voilà.
Mais en fait, c'est la troisième femme académicienne. Et par exemple, Jacqueline Delromini ne vous souhaitait pas non plus. Donc, j'ai eu un moment de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça doit être quand même assez élégant. Je ne voulais pas faire le garde, n'est-ce pas, traditionnel de l'épée. Parce que pour une femme, j'ai trouvé que c'est un peu lourd. Et en fait, elle forme une croix. J'ai présenté de la maquette. Hein. J'ai exécuté en cuivre d'abord pour mieux voir le volume. Elle m'a dit, voilà, c'est la croix. Et je dis, Hélène, vous êtes Jeanne d'Arc. Évidemment, c'était une plaisanterie. Elle m'a dit oui. J'ai considéré comme Jeanne d'Arc parce que c'est une femme courageuse. Elle a écrit beaucoup de grands spécialistes de, disons, le bolchevisme ou soviétisme, comme vous voulez. C'est assez vaste, cette spécialité. Mais à l'époque, au livre qu'elle a publié, « L'Empire éclaté », je l'ai lu sans connaître. C'était même difficile pour moi parce que je ne parlais pas bien français et surtout j'ai une difficulté de lire. Mais quand même, j'ai fait les efforts pour les lire. L'analyse d'Hélène Caradancos, c'était tout à fait ce qui correspondait de mes pensées, parce que je voyais ça par l'intérieur, si vous voulez, parce que j'ai vécu dans le pays. Et ce qui m'a frappé, que la personne qui n'a jamais vécu dans ce pays, à l'époque surtout, ne voyageait pas. Tout à fait bien compris
le
système,
le côté visionnaire,
comment ça fonctionnait. Et c'était quand même un livre assez visionnaire. Et autant plus, j'ai eu plus grand respect pour elle.
Alors, on ne peut pas évoquer malheureusement toutes les épées que vous avez forgées, je l'ai dit, il y en a eu 13, je crois.
Oui.
Il y en a une qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est celle de Jean Cluzel, le fondateur de Canal Academy.
Bien sûr.
Vous avez aussi été contacté par Jean Cluzel, qui avait eu connaissance de votre travail d'art sacré, je dirais, je crois, en voyant des choses qui constituent le trésor de la
cathédrale
de
Chartres.
C'est ça.
Voilà, en cathédrale de Chartres. Et moi, je le connaissais, Jean Cluzel, parce que de temps en temps, je voyais sa prestation en télévisée parce qu'il était rapporteur.
C'est rapport de l'audiovisuel.
Audiovisuel, voilà. Bon, je racontais un homme très courtois, aussi, comme les autres précédents académiciens, il m'a séduit beaucoup. Bah, il m'a expliqué qu'il venait d'Allier, il était le sénateur du département
de l'Allier.
D'Allier. Donc il m'a donné certains nombres de sujets. Voilà. Donc, de la même façon, j'ai trouvé l'âme d'acier ancienne, mais cette fois-ci, c'était français, chez mon marchand des armes. Et donc, je pense qu'il était assez content de son épée. Une fois, on a demandé pour prêter une exposition qui a eu lieu à la ville de Nantes.
Au musée d'Aubray.
Au musée d'Aubray,
la très
première,
bon musée,
première
oui.
exposition rétrospective.
Oui.
Donc, il nous a prêté cette épée. Vous savez, par mon expérience, je le sais que les académiciens, ils n'aiment pas se séparer son épée. Voilà. J'ai été autant de reconnaissant.
Alors, toutes ces épées, elles sont constituées de pierres précieuses ou de pierres semi-précieuses.
Pierres dures.
De pierres dures, pardon. Voilà. On parlait tout à l'heure de lapis lazuli, de cristal de roche, de pierre de lune, de malachite. Où est-ce qu'on trouve aujourd'hui ces matériaux? Où est-ce qu'on trouve ces pierres?
Il y a des provenances diverses, mais principalement, j'ai trouvé avant, parce que maintenant, on ne trouve plus. Il existe en Allemagne des bourses de pierres dures.
Dans le Palatinat, je crois, c'est ça?
Le Palatinat, oui. Ça s'appelle Idar-Oberstein, cette localité. Et depuis le 19e siècle, il y a une bourse internationale.
Un petit peu comme la bourse du diamant à Anvers.
Voilà, si on peut comparer, oui. Mais on négocie en matière brute, c'est-à-dire il reçoit de tous les continents des pierres. Mais ces derniers temps, il y a une dépression dans cet endroit parce qu'il n'y en a plus de pierres dures. Ça n'arrive pas jusqu'à l'Allemagne, pour simple raison. On parle beaucoup ces derniers temps d'augmentation des prix de toutes les matières premières, entre autres des pierres dures, parce que les Chinois, ils achètent tout sur place, dans le source, donc ça n'arrive pas jusqu'à l'Allemagne. Voilà. Donc ils ont une pénurie de matière, ils ont des monopoles actuellement. Donc c'est dommage, mais j'espère que la situation va changer. Sinon, ici, dans quelques temps, les pierres dures vont être introuvables.
Vous avez entre les mains des matières magnifiques, vous travaillez des matières superbes, vous fabriquez ces objets superbes qu'on peut voir dans différentes galeries ou lors d'expositions, comme celle qui a eu lieu au château de Blois l'an dernier. Mais je crois que vous n'êtes pas du tout collectionneur. On s'imagine un peu que chez Gucci, c'est un petit peu comme dans un cabinet de curiosité d'un alchimiste de la Renaissance, mais vous n'êtes pas collectionneur.
Par là, je ne suis pas collectionneur, je ne suis pas un, comment vous dire, monomaniaque. Voilà, je ne suis pas un monomaniaque. Et j'aime des choses différentes, ça peut être différentes époques. Il faut dire que tout ce que je collectionne, quelques outils anciens que si je trouve par-ci, par-là. Par exemple, dernière fois, j'étais en Belgique et j'ai trouvé chez un antiquaire une enclume très ancienne pour faire l'armure. Les marchands, je crois, étaient très contents de se débarrasser de cette enclume qui pèse 250 kilos.
Elle a fait un prix.
Et les transporteurs ont eu aussi des difficultés de l'amener jusqu'au mon atelier. Voilà.
Alors, parler de cette enclume, ça nous amène aussi à préciser aux auditeurs que vous réalisez, vous forgez peut-être, je ne sais pas si c'est le mot, tous vos outils.
Oui, parce que tout ce que je produis, c'est fait sans moulage. C'est-à-dire, il n'y a pas d'aucun modèle. Faire des moules et reproduire ensuite, contrairement à ce qu'ils font de plupart des sculpteurs, par exemple. Moi, je travaille à partir d'une plaque de métal, donc chaque pièce est unique, et faire avec des outils très spécifiques pour avoir, par exemple, support sur lequel on peut forger et de repousser une plaque de métal, ça s'appelle des bigornes. Des bigornes, si on peut dire, c'est une petite enclumette, mais différentes formes. Donc, ce qui permet de façonner le métal avec l'aide de différentes formes de marteaux sur ces bigornes. Et donc, comme il est impossible à la trouver, disons, dans le circuit commercial, tous ces outils, et même de commander, donc j'ai fait moi-même, où mon expérience soviétique m'a servi beaucoup parce qu'on était habitué soit mourir parce qu'on ne peut pas rien faire, soit vraiment trouver la solution pour sortir. C'est-à-dire qu'il fallait tout faire. Donc ça m'a servi beaucoup parce que depuis mon jeune âge, j'ai touché plusieurs métiers.
Vous êtes un touche-à-tout.
Voilà. Et je suis habitué de faire tout.
Et alors, vous êtes habitué à faire beaucoup avec peu, mais en même temps, vous travaillez très vite parce que je crois que les entretiens que vous avez avec des académiciens, admettons, il y en a 2, 3, 4, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais le délai, lui, est très court, sont 2 à 3 mois.
Parfois, oui, parfois. Donc, je suis obligé, comme j'ai beaucoup de projets en même temps en réalisation, donc j'essaie de gérer de telle manière que vous donnez priorité. Par exemple, je fais toujours à la fois 4, 5 ou 6 objets. Voilà. Et j'avance au fur et à mesure d'échéances.
Et de la date de réception qui,
voilà,
qui
donc
se rapproche.
Il faut respecter les dates. Donc, jusqu'au moment où je n'ai pas trahi personne, j'ai toujours
rendu l'épée dans le délai.
C'était toujours fait à la veille, vraiment.
mais ça on ne le dit pas.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
Alors, c'est intéressant parce que ces épées ont une valeur très très forte. Elles descendent des épées de cour, les académiciens y sont très attachés. Pour le grand public, elles symbolisent l'appartenance à une des académies de l'Institut, alors qu'il n'y a pas d'obligation pour un académicien à avoir une épée. Et vous avez eu des demandes aussi, je pense récemment à celle de l'historienne Claude Saint-Denis, lorsqu'elle a été élue à l'Académie des sciences morales et politiques en 1996, parce qu'elle vous a contacté, mais pas pour une épée.
Oui, parce que elle souhaitait pas une épée. Simplement, on a réfléchi ensemble et je proposais une broche emblématique. Comme c'est une historienne, j'ai construit ce petit objet autour de deux petits personnages en or, c'est-à-dire deux Clio, c'est-à-dire les muses des historiens. Voilà. Et il faut dire que, comme j'ai eu l'année dernière exposition rétrospective dans le château Royal de Blois. Six académiciens m'ont prêté l'épée et c'est pratiquement tous les visiteurs et Dieu seul sait, on a eu 87 000 visiteurs, qui est un chiffre assez important. Et première fois, ces gens-là, ils voyaient tout près des épées à l'académicien parce que tout le monde a attendu.
Bien sûr.
Mais soit ils ont vu publier, et encore c'est rare.
Et on les voit de manière très furtive, généralement, voilà. Lorsque la télévision montre une élection ou qu'un académicien est en grande tenue.
Ils montrent rarement en détail.
Et voilà.
Voilà. Donc ils ont vu, ils ont été tous présentés l'ensemble dans la même vitrine. Et les gens restaient longtemps, j'ai observé, parce que j'ai vu de plusieurs reprises, devant cette vitrine.
Alors, ces épées, elles ne représentent qu'une partie de votre travail, je l'ai dit. Vous êtes aussi connu et très connu pour des œuvres magnifiques qui relèvent de l'art sacré. Et je crois que vous venez de terminer justement la chasse du Padre Pio.
Voilà, c'est cette toute dernière réalisation importante. Je reviens d'Italie, dans le Puy, le sanctuaire de San Giovanni de Rotonde, où il était enterré, Padre Pio. Et par décision des Vatican et l'ordre des Capucins, ils ont exhumé les corps de Padre Pio après 40 ans de son décès. Et c'est le coutume dans l'Église catholique, à partir d'un moment, de proclamer les saints. Il exhume le corps pour examiner et ensuite, cet corps devient le propriétaire du Vatican et en même temps, il y a des obligations de sécurité et de sauvegarde. Voilà, ça, c'est le Vatican qui prend en charge, mais il s'agit cette fois-ci de ce sanctuaire des Capucins. Donc, je connaissais bien les Capucins parce que, comme Padre Pio était béatifié en 99 par Jean-Paul II, c'est Jean-Paul II qui souhaitait, parce qu'il connaissait bien mon travail, et je l'ai raconté par avant, que Capucin confie cette réalisation, c'est-à-dire fabrication de reliquaire pour l'occasion de béatification. Et donc ça se passait aux places de Saint-Pierre, et Saint-Père a présidé cette cérémonie. Et 3 ans plus tard, il était canonisé. Et l'année dernière, voilà, les Capucins m'ont contacté pour dire qu'ils ont décidé de me confier cette fois-ci le sarcophage. Il s'appelle sarcophago, mais en français, on dit plutôt la chasse.
La chasse, voilà.
Voilà, la chasse. Et donc, j'ai construit cette chasse qui est une pièce assez importante. Pour vous donner juste l'idée, ça pèse de 600 kilos. C'est-à-dire, il y a des pierres, l'argent, de l'or et quelques applications des pierres dures. Toutes les pierres, d'ailleurs, qui sont citées après description de Jérusalem céleste par saint Jean dans son Apocalypse. C'est-à-dire, j'ai conçu cet réceptacle sur lequel posaient les corps de Padre Pio comme Jérusalem céleste, avec ses 12 portes et 12 pierres précieuses.
Oui, la symbolique est très forte.
Voilà, c'est sa symbolique, oui. Et évidemment, de chaque fronton, parce qu'il y a des ciboriums également qui couvrent cet réceptacle avec les corps. Et cet ciborium est posé sur 10 colonnes. Et de chaque côté des frontons, j'ai appliqué l'agneau mystique, aussi une vision de saint Jean, et la croix. Voilà. Et c'est éclairé par l'intérieur, c'était aussi très compliqué à... On a trouvé les solutions techniques par fibre optique. Donc, et ça fait déjà 2 semaines, il est sur place. Et moi-même, j'ai assisté à cette cérémonie avec ma femme. Nous sommes allés exprès de la translation des corps. C'était un moment assez fort. Et ensuite, on a vu 700 000 personnes qui se sont déplacées pour vraiment être un des premières de voir cet corps.
Alors, je crois que vous continuez dans le même temps que vous avez commencé pour le trésor de la cathédrale de Chartres.
Oui. Une des plus importantes réalisations, c'était
grosse commande. Depuis
1993, pour la cathédrale de Chartres, où j'ai réalisé 27 objets. Actuellement, je suis en train de terminer le reste des commandes, parce que c'est très long. Et dès que je termine, j'espère pour 15 août, parce que c'est l'échéance que j'ai promis, il y aura 50 pièces. D'une part, mobilier liturgique et de tous les vases sacrés. Donc 50 pièces, c'est sans précédent, qui est faite par une seule personne avec ses propres mains. Donc il n'y a pas aucune sous-traitance ou de rien n'est fait au dehors de mon atelier. Ouais. Donc il fallait tout assumer, ce qui était parfois pas facile.
Donc on se donne rendez-vous pour la messe de l'Assomption à la cathédrale de Chartres.
Voilà, plutôt 15 août, parce qu'à l'Assomption, je pense qu'ils ne seront pas tous, sauf dernière livraison qui présente 16 petites coupelles pour distribution des hosties.
Alors, il y a d'autres galeries où l'on voit votre travail. On va en citer deux, la galerie Claude Bernard à Paris, et puis une galerie qu'on va saluer, qui est la galerie de Gérard et Sophie Capazza à Nancy.
Oui, que vous connaissez depuis longtemps.
Dans la Sologne du Cher, oui. Où l'on présente votre travail depuis là aussi près de 30 ans.
Tout à fait. Gérard et Sophie Capazza qui me défendent. De première heure, si je peux dire.
Depuis le début, oui.
Depuis 30 ans. On a gardé cette, si vous voulez, fidélité. Et ensuite, il y a des galeries parisiennes assez connues.
Oui, la galerie
Claude Bernard, ouais. Où j'expose régulièrement, pratiquement tous les 3 ans ou 4 ans suivants, si j'ai une collection. Voilà. Il s'agit d'exposer 10 objets profanes.
Est-ce qu'il y a justement un projet d'exposition ?
Oui, il y a des projets. D'une part, l'exposition avec Galerie-Claude Bernard, mais pas à Paris, parce qu'il me présente en Belgique, en Bruxelles. Également chez Sophie et Gérard Capazza, mais pour le salon de Strasbourg. Et surtout, à partir de novembre 2009... Il y aura une exposition aussi rétrospective dans le musée des textiles et de l'art décoratif des Lyons. Le musée est très connu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très important musée lyonnais. Donc voilà, j'ai eu déjà à Lyon une exposition de mes œuvres liturgiques dans les fondations des Fourvières, et cette fois-ci, ça va être présenté plus largement.
Et alors, vous trouvez encore le temps de répondre favorablement à des commandes particulières. Je pense à celle de quelqu'un que nous connaissons tous les deux, qui est Philippe Rouillac, le commissaire de Vendôme, qui possède un très beau marteau.
Aussi, Philippe Rouillac, commissaire-priseur de Vendôme, un de mes premiers défenseurs, parce qu'on a acheté une maison dans Loir-et-Cher, où j'ai continué de travailler d'ailleurs. Tous les objets importants ont été réalisés sur place, parce qu'à Paris, je n'ai pas assez
dans
de place.
Dans le Vendômois.
s'était réalisé avant 2 mois. Et c'est sa femme qui m'a demandé, elle voulait offrir mes œuvres, et quand même c'est aussi d'objets emblématiques, les marteaux. Mais ce n'est pas été les premiers marteaux. J'ai déjà auparavant fait un marteau pour un commissaire priseur et surtout pour l'ouverture de la naissante, de l'ouverture du troisième millénaire.
Bien sûr.
J'ai fait un marteau pour ouvrir un porte-saint. Voilà, donc qui se trouve actuellement dans le sacristie pontificale près de l'œuvre de Michel-Ange, ce qui m'a fait beaucoup de plaisir, des chapelles Sixtines.
Guidi, merci. Merci d'être venu nous présenter votre travail et votre action au service de l'Institut de France et des académiciens. Pour terminer, je voudrais lire un petit texte que Félicien Marceau vous a consacré il y a quelques années. Je crois que c'était à l'occasion de l'exposition de cette rétrospective au musée d'Aubray de Nantes. Je cite Félicien Marceau, « Ce qui me frappe dans l'art de Guidi et qui m'avait déjà frappé il y a quelques années, lorsqu'il m'avait montré son projet pour mon épée, c'est le souci qui apparaît de donner aux objets une dimension en quelque sorte mythique, tout en gardant leur signification originelle. Cet art qui vient de loin, de très loin, dans l'espace et le temps, de plus loin encore et du plus profond de la sensibilité de l'artiste, est aussi un art résolument planté dans le monde actuel et qui le reflète. Il rejoint ce point magique où la beauté transfigure le réel sans perdre le contact avec lui. »
Magnifique.
Avant de nous quitter, Guidi, on conseillera à nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur cette tradition des épées d'académiciens d'écouter une émission que avait consacrée Mireille Pastoureau à ce thème, conservateur de la bibliothèque de l'Institut, une émission qu'on retrouve sur la médiathèque de Canal Académie.
Merci.